Vous assistez à un moment historique. C'est la première fois que je prêche à Josué. Ouais. Alors, faites preuve de grâce. Et je suis prête à reprendre tous vos commentaires. Écoute, là, ça voulait rien dire. Ou alors là, on n'a rien compris. Mais Seigneur, je te prie que ce que toi, seulement ce que toi, tu veux qu'on garde, on puisse le garder, Seigneur Jésus. Amen. Alors, suite à tout ce qui s'est passé, il y avait une méditation qui avait été apportée par un collègue à mon travail. Vous savez que je travaille à Portes Ouvertes, la mission pour les chrétiens persécutés, qui me poursuivait pendant tout ce temps qu'on a vécu. Et je l'ai partagé à Luc. Puis Luc, il m'a dit, bah voilà, ça c'est pour dimanche. Moi, je pensais qu'il allait juste l'utiliser et faire quelque chose avec, mais pas vraiment. Bref. Alors, je propose qu'on lise la parole. Ça commence bien, je trouve, non ? On commence dans Daniel 3. Alors, Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or. Sa hauteur était de 60 coudées, sa largeur de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Je vais lire tout le chapitre et je trouve, vous allez peut-être trouver que c'est long, mais vous allez voir, la parole, elle est tellement bonne. Et Nebuchadnezzar, le roi, envoya un ordre pour rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils vinssent pour la dédicace de la statue de Nebuchadnezzar que le roi avait dressée. Alors s'assemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressée. Et ils se tinrent devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Et un héros cria avec force : Il vous est ordonné, peuple, peuplades et langues, aussitôt que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la musette et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que Nebuchadnezzar, le roi, a dressée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'heure même au milieu d'une fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et toute espèce de musique, tous les peuples, peuplades, langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressée. À cause de cela, en ce même moment, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent des Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis à jamais !» Toi, ô roi, tu as donné ordre que tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la musette et toute espèce de musique se prosterne et adore la statue d'or. Et quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a des hommes juifs que tu as établis sur les services de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et la statue d'or que tu as dressée, ils ne l'adorent pas. Alors Nebuchadnezzar, en colère et en fureur, commanda d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on emmena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mon Dieu et que vous n'adorerez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, si au moment où vous entendrez le son du cor, de la luth, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la musette et toute espèce de musique, vous êtes prêts à vous prosterner à adorer la statue que j'ai faite ? Mais si vous n'adorez pas, à l'instant même où vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent, et qui est le Seigneur qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi. Cette réponse m'éclate. Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions à ce sujet. S'il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et il nous délivrera de ta main, au roi. Et sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'apparence de son visage fut changée envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et commanda de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on était accoutumé de la chauffer. Et il commanda aux hommes les plus vaillants de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés dans leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Parce que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme de feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu. Alors le roi, consterné, se leva précipitamment et prit la parole. Il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il répondit et dit, « Voici, je vois quatre hommes déliés se promenant au milieu du feu. Ils n'ont aucun mal à l'aspect du quatrième, et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez !» Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi qui étaient assemblés virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance. Les cheveux de la tête, de leur tête n'avaient pas été brûlés et leurs caleçons n'avaient pas changé et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui a envoyé son ange et qui a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui. » Et ont changé la parole du roi. Ils ont livré et ont livré leur corps afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et de par moi, l'ordre est donné que tout peuple, peuplade, langue, quiconque parlera mal de Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Waouh, ouais. Waouh. Et si on... Ouais. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, on connaît tous cette histoire, mais ce sont trois hommes qui vivent dans un contexte extrêmement compliqué. Je pense que le contexte français, à côté du contexte de Babylone, c'est de la pacotille. Là-bas, il y avait de l'occultisme à fond la caisse, des magiciens partout. Ce roi a été complètement mégalo, faire ériger une statue, demander qu'on l'adore. Il était assez... bipolaire, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais schizo, de changer complètement d'un seul coup ça, d'un seul coup ça, manipulable aussi. Et pourtant, ces hommes, ces jeunes, je ne sais pas quel âge ils avaient en fait, ils étaient aux années 30 ans, voilà. Tu peux mettre... Ces hommes étaient au service du roi, et on le voit notamment au verset 12, il est dit qu'ils avaient l'intendance du royaume. Je ne sais pas si nous, en tant que chrétiens, c'est une parenthèse, dans un contexte aussi pourri, on dirait « Ah non, moi, eux, ils se débrouillent dans leur caca, pour rester polis. Moi, je sers Dieu de mon côté. » Non, Dieu les a placés là. Et ce qui est fort aussi avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est qu'il y avait une réelle communion entre eux. On ne parle pas de Shadrach sans Meshach et de Meshach sans Abednego, etc. Donc, ces trois amis, ils restent tout le temps ensemble. Et ces fous furieux, obéissant jusqu'au bout, franchement, ils me font penser un peu à nous. Tu peux mettre la photo, s'il te plaît, la photo que vous avez vue tout à l'heure, en fait. Après le départ de Flavie, tout nous poussait à l'incrédulité. Et on était dans un environnement où nos amis, nos chrétiens, bien sûr, les médecins et leurs pronostics, bien sûr, mais elle est morte cliniquement, et même certains chrétiens, on n'osait pas leur dire qu'on priait pour la résurrection. Et on passe pour des fous, et prier pour la résurrection, allô, on est sur terre ici, oui, mais on aimerait faire descendre le ciel sur la terre, et on croit que le ciel est ouvert. Donc, on a refusé de s'abaisser devant l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un gros morceau en France. Franchement, il y a tout le monde qui s'incline devant l'incrédulité. Et il y a aussi plein d'autres statuts dans nos vies. On peut nommer plein d'autres statuts. Et l'ennemi voudrait qu'on se prosterne devant ça. Et c'est parfois difficile de ne pas s'incliner devant la pression ambiante, devant l'intimidation, la crainte. J'ai noté ça en écrivant, la crainte de l'ostracisme. Alors, ça, c'est l'héritage d'une mère prof de français. L'ostracisme, juste pour... J'étais étonnée de moi-même, je vous dis. J'ai même vérifié dans le dictionnaire. C'est l'action de tenir quelqu'un qui ne plaît pas à l'écart d'un groupe, d'une société, d'une manière discriminatoire et injuste. On peut avoir peur de cet ostracisme. On peut être... Oui. Et parce que, voilà, tout nous pousse à nous prosterner. Mais cette communion-là, on est comme ces trois potes, cette communion-là, elle nous aide vraiment à tenir bon. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le témoignage des chrétiens persécutés. Eux, tout leur pousse à se mettre, à se prosterner, etc. Et puis, ils ne le font pas. Et est-ce que Dieu agit ? Oui, Dieu agit. Par exemple, le quotidien des chrétiens persécutés, c'est quoi ? C'est comme dans 2 Corinthiens 4, 7, 10, où il est dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Et franchement, ces derniers jours, on s'est sentis un peu comme ça. Et on prie, et les chrétiens persécutés prient, on prie avec eux, on se tient avec eux, on fait des pétitions, on envoie du lobbying auprès des politiques, etc. Et pourtant, des fois on a l'impression de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'il faut, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous connaissez peut-être cette situation où on fait tout ce qu'on doit faire, et ça ne marche pas. Et on a des paroles, on a des rémas, on a des confirmations, on a des rêves, on a des visions, on a des songes, et on sait qu'on sait qu'on sait, on fait tout ce qu'il faut, on jeûne, on prie, ça marche pas. Et pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Et je sais pas si on a ces questions-là ce matin ou pas. Là, c'est un peu plus personnel. Il y a 3 ans de ça, j'ai frôlé un burn-out parce que, entre autres, en l'espace de 10 jours, j'avais appris la mort de 4 personnes. Un bon ami de mon père, d'une pancréatite aiguë, le neveu d'un collègue qui est mort-né, un cancer d'un autre collègue, et un suicide d'une bonne amie, le suicide du frère de bons amis à moi. Et je voyais la mort rôder partout, et j'étais là, mais Seigneur, c'est comme si j'avais tenu. Et là, c'était, mais Seigneur, mais à quoi tu joues, quoi ? Et c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je voyais que ma perception de Dieu était un peu vacillante, parce que je voyais que j'étais ébranlée. Et comment ont fait les amis de Daniel ? Donc eux, ils étaient dans cette communion, et cette communion, elle m'a... Merci l'Église qui m'a permis de pas tomber. Je vais revenir là-dessus plus tard. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui a fait que les amis de Daniel aient tenu bon ? On a parlé de cette communion, mais en analysant ce texte, il y a 3 choses. Ils connaissaient leur Dieu, et dans 3 dimensions, ils connaissaient leur Dieu. Et ils ont donné ces 3 aspects à Nebuchadnezzar. Et je crois qu'on est dans cette saison où Dieu nous pousse à connaître encore plus de lui. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Et quand je sais que il y a 3 ans où j'ai frôlé ce burn-out, Dieu m'a appris tout ça. Et maintenant, en l'espace de 24 heures cette semaine, j'ai appris la mort de 3 personnes de nouveau. Et j'étais stable. Ça n'a pas secoué. Ça a pas, bien sûr, il y a les émotions, tout ça, mais quelque chose a changé. Parce qu'il y a ces 3 aspects-là que Dieu a enfoncés, inculqués dans ma vie. Alors, je propose qu'on relise Daniel 3, 17, 18. Vous vous rappelez cette réponse incroyable des amis de Daniel à Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si moi j'aurais osé répondre ça au roi. Il dit, mais c'est qui votre Dieu ? Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Et en gros, ils disent, t'as rien compris, ô roi, franchement, ta question, elle est à côté de la plaque. S'il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Il nous délivrera, et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Donc là, il y a 3 aspects qui m'ont vraiment... Et c'est ça le centre du message, j'y arrive enfin. 3 aspects. Notre Dieu peut nous délivrer. Après, c'est quoi ? Il nous délivrera. Et sinon ? Et il y a une autre version, ils disent, et s'il ne le fait pas ? Sache au roi, on n'adorera pas la statue que tu as dressée. Quoi qu'il arrive, on ne s'inclinera pas. Et donc, notre Dieu peut nous délivrer. Ça nous parle d'un Dieu comment ? Un Dieu qui est tout puissant. Il est il peut, il a cette omnipotence, et les trois amis de Daniel connaissent la puissance de Dieu. Et nous aussi, on sait que notre Dieu, il est tout puissant, il a guéri des malades, on sait qu'il ressuscite les morts, il guérit les lépreux, il coupe la mer en deux, il met en déroute une armée, il convertit le cœur de terroristes, amen. Il est plus proche de nous, il a protégé Étienne d'être tétraplégique. Alors dites-moi, comment Dieu est tout puissant? Donnez-moi un exemple dans votre vie. Jérémie qui est... Voilà, dont le cœur s'est arrêté de battre dans le cœur de Jocelyne. 25 ans plus tard, Voilà. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il est avec nous. Donnez-moi autre chose. Dieu qui est tout puissant. Waouh. Encore. Ok. Merci Seigneur. Voilà, Daniel qui est vivant alors que Katia perdait les os à 14 semaines. Oui. Ouais, Thierry, t'es un miraculé. Yes. Une autre personne qui veut me dire... Waouh, trop cool, vas-y. Waouh. Nadou. Trop bien. Benjamin. Oh, waouh. Waouh, c'est big. Caroline, pardon. Et moi, en Égypte, il m'a permis que je passe pas sous les roues d'une voiture. Merci, Seigneur. Oui, on connaît cette omnipotence de Dieu. On sait qu'il est tout-puissant et on est un peu... Et ça, mais merci Seigneur d'être dans une église qui croit à fond la caisse et qui ne se laisse pas déstabiliser. Donc pour ça, oui, merci Seigneur parce que tu es tout-puissant. Ouais, mais des fois, il y a des événements qui nous font douter de la toute-puissance de Dieu. Et parfois, l'ennemi semble avoir le dernier mot. Si un malade ne guérit pas. Heureusement, on est bien briefé par Nadou là-dessus. Mais il y a des situations où on dit, mais Seigneur, tu es vraiment tout-puissant. Alors... Il n'y a pas que la toute-puissance de Dieu dont les amis de Daniel avaient conscience. La deuxième chose, c'est notre Dieu nous délivrera. Et ça parle de l'amour de Dieu. Parce qu'un Dieu tout-puissant sans amour, ce serait un Dieu despotique et totalitaire. Et ça, ce n'est pas notre Dieu. Alors, et un Dieu d'amour sans être tout-puissant, il est gentil comme Dieu, quoi. Mais c'est pas vraiment... Ce serait un Dieu mou, un Dieu faible... Et ça ôterait quelque part les moyens de son amour. Or, ici, on a un Dieu d'amour. L'amour avec un grand A, comme dirait Flavie. Cet amour qui bannit la crainte. Cet amour qui l'a fait aller jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Cet amour passionné qui nous a rachetés, arrachés des griffes du malin. Cet amour qui a payé le prix de notre péché, qui a vaincu la mort. Cet amour qui a pris la colère du Père. Cet amour qu'un Père a donné. C'est par cet amour qu'un Père a donné son Fils unique. Cet amour qui veut que personne ne se perde. Cet amour qui veut qu'on ait tous la vie éternelle. Cet amour qui a poussé Dieu lui-même à prendre la forme d'un homme et à se faire serviteur, un roi qui devient serviteur. Cet amour qui attend depuis 2000 ans son épouse, qui la prépare, qui l'aime, et cet amour qui fait que chaque matin, on se réveille, et il y a ce miracle, notre cœur qui bat. Et ça, c'est une grâce. Et cet amour, il rend notre Dieu complètement différent de tous les autres dieux. Dans l'islam, il y a pas d'amour. Ils ne connaissent pas le père d'amour. Et cet amour, il a une place tellement centrale dans l'Évangile. Dans Éphésiens 3, versets 14 à 21, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Je le prie pour nous, chacun, aujourd'hui, dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Waouh ! Cet amour, il est big. Est-ce que quand vous... Et ensuite, or à celui qui peut faire par la puissance qui... On peut le dire ensemble. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et puis, dans le psaume 18, il y a ce passage au verset 17 et 20. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mise au large, il m'a sauvée. Pourquoi ? Parce qu'il m'aime. Ah, il m'a sauvée parce qu'il m'aime. Est-ce que vous sentez cette paix qui vient quand on parle de l'amour de Dieu ? À chaque fois que je suis visitée par son amour, parce que on comprend qu'on est ses fils et ses filles, qu'on est ses enfants. Il y a une paix qui vient, une sécurité qui vient. Donc, à cause de son amour, il va me sauver. Qui est d'accord avec ça, donc ? Ouais, vous me rassurez. Donc, sa parole est la vérité. Et cette promesse, on doit s'y attacher. On doit s'accrocher parce qu'il nous aime, il nous sauve, il nous délivre. C'est la vérité et on doit s'y attacher. Et c'est ce qu'ont fait les amis de Daniel. Ils connaissaient leur Dieu. Ils se sont attachés à cette promesse. Et face aux circonstances de la vie, on doit avoir foi en un Dieu tout-puissant, en un Dieu d'amour, toujours, toujours, toujours. Et ces trois derniers jours, c'est ce qu'on a fait. On a persévéré dans la foi en un Dieu d'amour omnipotent. Et sinon, on aurait été incrédule si on n'avait pas persévéré dans ces deux aspects-là. Oui, mais Dieu, il y a des situations, surtout avec les chrétiens persécutés, où on voit que on a l'impression qu'il ne sauve pas toujours. Nos yeux, notre entendement, il est là, attends, mais Seigneur, tu me dis ça, je crois en toi, tu es tout puissant, tu es amour. Et de l'autre côté, pourquoi ? Dieu est-il menteur ? Non. Des fois, notre chair veut nous faire croire ça. Dieu se moque-t-il de nous ? Des fois, quand on n'est pas ancré vraiment en lui, des fois, notre chair, elle dit, non, mais tu te fais manipuler par Dieu. Dieu est-il vraiment Dieu ? Ou nous nous sommes trompés ? Non. Non, on sait qu'on ne s'est pas trompé. Alors c'est là où le troisième aspect devient important, ce troisième aspect qui manquait un peu dans ma vie avant. Donc Dieu peut nous délivrer, Dieu va nous délivrer, et même s'il ne le faisait pas. Ouh, ah mais j'aime pas ça, cette partie-là, comment ça s'il ne le faisait pas ? Mais c'est de l'incrédulité ça, c'est du Inch'Allah, c'est du fatalisme, pourquoi tu dis ça ? Les amis de Daniel, où est votre foi ? Où est votre foi ? Nous, on sait la suite, on sait que Dieu les a délivrés, donc c'est facile de dire ça, mais à leur place. Et en fait, ça, c'est, mes amis, c'est ni de l'incrédulité, c'est ni du fatalisme, c'est ni un manque de connaissance de Dieu, bien au contraire. C'est ça, c'est cet aspect-là qui rend la foi des amis de Daniel parfaite en Dieu. Pourquoi ? Parce que ça révèle leur connaissance d'un Dieu qui est souverain. Il est souverain. Et et même s'il ne le faisait pas, ça marque leur entière soumission à Dieu. Et vous avez dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Et dans Matthieu 26, 39, Jésus lui-même, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et cette connaissance de la souveraineté de Dieu, c'est ce qui a ôté toute angoisse de ma vie. Toute angoisse. C'est quoi cette souveraineté ? C'est quoi la souveraineté ? C'est, en anglais ils disent « ruler », c'est quelqu'un qui domine, il domine sur tout le monde. C'est comme le chef d'État du monde entier qui a la domination, le gouvernement sur tout. Il est souverain. Il règne. Et on parle d'un Dieu souverain dans Psaume 97,9 et dans Philippiens 2,9. On dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Dieu est souverain. Si Dieu n'était que tout-puissant et amour, qu'est-ce que ce serait, quel type de Dieu ? Un Dieu manipulable. Je te prie, tu es obligé de faire ça. Ce serait peut-être ça. Donc finalement, c'est pas vrai. Ce serait un Dieu faible s'il est manipulable, au final. Et une souveraineté et une toute puissance sans amour, ça donnerait quoi? On serait juste des marionnettes, on serait juste des pantins dans la main de Dieu, des joujoux. Dieu serait un tyran, en fait. Mais ce qui nous délie de toute peur, de toute angoisse, c'est cette connaissance de la souveraineté de Dieu. Il règne. J'aime beaucoup ce terme, ce mot hébraïque. Est-ce que c'est Jéhovah? Ça veut dire non, c'est Yahweh qui dit celui qui est, ou Jéhovah, c'est celui de l'existence, ou quelque chose comme ça. Et en fait, de savoir que tout ce qui est, vous allez suivre, j'espère, tout ce qui est par celui qui est. Donc, si je peux dire je suis, c'est parce que lui, il est. Et tout subsiste par celui qui est. Tout ce qui peut avoir le verbe être est par celui qui est. Et ça donne une telle... Donc, je ne sais pas si vous saisissez, on va prier après pour saisir cette souveraineté de Dieu. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 3 ans, j'avais frôlé ce burn-out, etc., avec toutes ces morts. Et... Parce que j'étais là, mais en qui je crois finalement? Dieu est-il vraiment Dieu? Eh bien, j'avais connaissance d'un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, mais je n'avais pas connaissance d'un Dieu vraiment souverain. Et que même... Et voilà, notre âme, tout ce qu'on est, s'incline devant lui. Seigneur, tes plans sont plus élevés que les miens. Et puis, on a cette chance de recevoir des paroles de Dieu en disant que c'est une semence, Flavie, et qu'il y a une nouvelle, il y en a 1000 maintenant, il y a une nouvelle génération, cette génération des 30 ans, qui se lève pour reprendre le flambeau. Il y a de l'espérance, il y a sans cesse de l'espérance. Comment dire, Dieu est souverain. Et j'ai bientôt fini. je sais que l'amour de Dieu, je note pour nous cet amour de Dieu, de nous avoir fait passer par là. Il veut nous élever justement à un plus haut niveau de connaissance envers lui. Parce qu'après, on peut traverser toutes les fournaises après ça. Quand on a connaissance, comme les amis de Daniel, que Dieu nous... Il peut nous délivrer, il va nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, on reste qui on est. On peut traverser toutes les fournaises. Et ce qu'il y a après la fournaise, le roi reconnaît qui est Dieu. Et il dit à tout le monde qu'il n'y a pas d'autre Dieu plus grand que ce Dieu-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Daniel 4, au verset 2 ou 3, dans certaines versions, il reconnaît Dieu comme souverain à ce moment-là. Et donc j'ai de la fierté pour nous tous en fait, parce qu'on a été trouvés dignes de passer par cette épreuve et trouvés dignes de connaître plus de Dieu, de connaître plus de lui pour demeurer inébranlable pour les prochaines fois. Il nous fait l'honneur de nous amener à un autre niveau où on devient inébranlable, et la France a besoin de cela. Il veut qu'on le connaisse de mieux en mieux. Il est tout puissant. Il est amour, il est souverain. Et ces 3 éléments ensemble, ça nous rend comme des Shadrach, Meshach et Abednego. On peut traverser les pires fournaises avec nos amis. Avec nos amis. Tu peux remettre la photo, s'il te plaît, Giovanna. Avec nos amis. Pas seul, comme disait, je ne sais plus qui disait ça ce matin. Pas seul. Si on arrive à tenir bon, c'est avec nos amis. Donc, Seigneur Jésus, peut prier. Seigneur Jésus, tu es si bon, et Seigneur, je te prie qu'on puisse garder que ce que toi tu veux qu'on garde de ce moment. Et Seigneur, merci de nous faire comprendre davantage ta souveraineté. C'est pas une souveraineté sans amour, loin de là. C'est une souveraineté dans l'amour et dans ton omnipotence. C'est pas un amour sans puissance, c'est pas un amour sans souveraineté, et c'est pas une puissance sans amour. Ni souveraineté. Seigneur, merci parce que tu es complet. Et rends-nous semblables à Shadrach, Meshach et Abednego qui se moquent de la pression environnante, qui n'ont pas peur des fournaises parce qu'ils savent qui est leur Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain. Et merci de nous avoir trouvés dignes de te connaître davantage, d'apprendre davantage au travers de ces épreuves. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi. Révèle-toi au cours de cette semaine qu'on puisse trouver cette paix que tu m'as fait connaître quand j'ai compris ça, vraiment. Je libère vraiment cette onction de paix dans le nom de Jésus qui nous rend inébranlables en toi, avec nos amis. Merci Jésus. Amen. Et je vous encourage juste pour les... Ça, c'est du purement pratique, mais à portes ouvertes, vous savez, on est confronté souvent à des chocs. Et les clés, c'est le repos. Reposez-vous, les amis. prenez du temps pour vous, faire des choses que vous aimez faire, des choses qui vous renouvellent, un match de rugby, des choses comme ça. Et aussi, parlez. Parler à Dieu, dans sa présence, dans la louange, parler. Ça, c'est les trois clés qui nous sont données au travail. Et voilà. Bah, je vous aime fort et merci. Vous avez été très gentils.